l'heure du JT.
Il est pratiquement 19h. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour passer ce week-end en votre compagnie.
Putain, nous sommes le
ils veulent avoir leurs examens en fin d'année. C'est mieux de les réviser. Parce qu'il n'y aura pas d'examen en chocolat. Voilà.
Pension de retraite, pourquoi cette faible revalorisation
de la part du gouvernement ?
Fausses offres d'emploi pullulent sur le réseau de Pôle emploi.
Une question de santé publique et donc économique qui intéresse les entreprises.
La procédure fait intervenir un huissier qui vient notifier l'expulsion avant démolition.
Passé. Oui ou non, interdire le burkini
sur maillot. C'est sûr, je l'éteins là, je l'éteins la télé même. Même je l'éteins à tout jamais. Tu vas voir ce qu'elle va voir. C'est qui ?
Oh, René ! Tous les vendredis, c'est pareil. Une télé explosée. Hein ? La plus rebelle des radios, la plus rebelle des radios. Wow.
Bonsoir tout le monde, vous êtes bien le vendredi de février dont j'ai oublié la date et vous êtes bien à l'écoute du Canu Info. Aujourd'hui, on va commencer les informations en vous parlant des multinationales et de comment elles payent leurs impôts en Europe.
Et puis après, on vous fera une petite annonce pour le G7 qui s'annonce à Biarritz en août.
Et ensuite, on verra comment le procès Baupin est un procès historique de la parole libérée.
On vous parlera également de boulangerie et de police.
Et puis toujours du côté des gilets jaunes, on vous fera un peu un bilan des dégâts matériels de manif de ces dernières semaines.
Et ensuite, on verra du côté de l'ONU, une dépêche vient de tomber. En effet, les experts et les expertes de l'ONU dénoncent les restrictions graves aux droits des manifestants et manifestantes gilets jaunes.
On vous donnera un petit bilan de la répression du mouvement des gilets jaunes, là aussi.
Et puis on ira du côté de l'Assemblée nationale, où la casse du droit de manifester se met en place.
Et ensuite, on lira comment un compte d'un contrôle d'identité et une détention provisoire, une collaboration de la police.
Et ça se passe à Toulouse. Et on enchaînera sur la situation dans la rue à Lyon. Voilà, et on terminera par...
le traditionnel agenda.
Bonne écoute sur Radio Canu 102.2, il est 19h03.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques.
Il y a d'un côté un nouveau totalitarisme et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain nous sortirons de l'état de droit.
On commence ce Canu Info en vous parlant de quelque chose d'assez austère et d'assez compliqué, puisqu'on va parler d'impôts nominales, d'impôts réels, des entreprises. Alors voilà, ça a l'air très compliqué, mais on va faire assez vite, parce qu'une fois de plus, c'est plutôt simple. En fait, il y a un petit rapport qui a été fait par le groupe des Verts au Parlement européen, dont vous avez peut-être entendu parler cette semaine. Nous, on en a entendu parler sur le site Basta. Petit rapport qui explique qu'en Europe, plus une entreprise est grande, et bah figurez-vous que moins elle paye d'impôts. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Dans la vraie vie des impôts, il y a le taux d'impôt qui est calculé sur les sociétés, sur les bénéfices des sociétés, sur ce qu'ils vont déclarer comme profit. Alors, on nous parle souvent des paradis fiscaux, là où il n'y a pas du tout d'impôt, voire, enfin, ou quelques quelques pourcents d'impôts. Mais il y a aussi autre chose qui se passe en Europe, c'est la course à l'attractivité pour les États, vis-à-vis des entreprises qui visent à les attirer chacun dans son petit État, ce qui fait que chaque pays essaye de réduire l'impôt nominal, l'impôt théorique qui va être proposé aux entreprises. En France, il est de 33% sur les bénéfices et le but du gouvernement, c'est de le réduire à 25% d'ici 2022. Et qu'est-ce qui se passe aussi? C'est que tout ça, c'est tout ce qui est impôt officiel et nominal, mais en fait, il y a le taux réel, et c'est ça qui allait dénicher cette petite commission parlementaire européenne, parce qu'en fait, là, il y a une différence très forte entre ce que les entreprises sont censées payer et ce qu'elles payent réellement. Par exemple, au Luxembourg, elles sont censées avoir un impôt de 29% sur leurs bénéfices et le taux réel est de 2%. En France, c'est censé être 33% et le taux réel est de 17%. En Belgique, 35%, le taux réel est de 14%, etc. Ce qui fait que là où les entreprises en Europe en moyenne devraient payer 23% d'impôt sur leurs bénéfices, les multinationales ne payent que 15%. Voilà, juste comme ça, une petite nouvelle économique sympa. Mais heureusement, figurez-vous qu'on a trouvé la solution pour lutter contre tout ça. C'est ce qui va se passer à Biarritz du 24 au 26 août. Tenez-vous bien, le G7, le fameux G7. Alors, on s'est renseigné sur le web et on a essayé de vous faire une info pluraliste. On a commencé par les médias qui en parlaient. Le média qui en parle en ce moment, le premier sur la ligne, c'est Sud-Ouest, qui nous annonce que ça risque d'être terrible et que Castaner a prévu de prolonger les mesures exceptionnelles de contrôle aux frontières de 6 mois. Alors bon, ça a duré depuis novembre 2015, donc il faut bien encore une nouvelle petite excuse pour les prolonger. Et puis, on a poursuivi notre investigation en cherchant à savoir ce que c'était le G7. Et là, on s'est rendu sur un site ultra ouf, c'est le site de l'Elysée. Alors, l'article, il s'ouvre avec une belle photo de notre président Macron. C'est une photo vidéo, en fait, on peut l'entendre parler. Cette photo est sous-titrée « Nous devons une réponse à toutes les victimes des inégalités ». Voilà à quoi sert le G7, s'il vous plaît, ne rigolez pas trop en studio. Le G7 serait le lieu pour lutter contre les inégalités sociales, les inégalités entre hommes et femmes, et contre quoi? Contre le changement climatique. Parce qu'ils ont quoi le G7? Ils ont un vrai plan de lutte contre les inégalités. Parce que le G7, il servirait à réduire les inégalités environnementales en protégeant notre planète grâce au financement en faveur du climat. Le G7, c'est quoi? Le G7, c'est une organisation pour le renforcement de la dimension sociale de la mondialisation autour de politiques commerciales, fiscales et de développement plus juste et plus équitable. Mais surtout, le G7, qu'est-ce que c'est? C'est l'action pour la paix et contre les menaces sécuritaires. Et on sent poindre les critiques chez les auditeurs que tout ça ne fait pas rire. Nous ne faisons que citer l'Elysée, bien sûr. On sent poindre les critiques qui vont dire « Oui, bon, c'est une réunion entre riches, des États riches. » Et bien, figurez-vous que cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils ont prévu? C'est que le G7, il implique les citoyens dans les discussions. Que le G7, ils impliquent aussi, qui ça? Les plus pauvres des pauvres, les États africains. Ils nous disent même, l'Elysée, que l'Afrique sera donc le partenaire privilégié des réflexions du G7 sur la paix, etc. Comment? On les recite en créant par le partenariat et l'innovation de nouvelles opportunités pour la jeunesse, bien sûr. On pense à ces prisons pour migrants déportés en Afrique, ça doit être ça, les opportunités pour la jeunesse. Mais surtout, pourquoi? Pourquoi ça va nous sauver, G7, et pourquoi ça se passe à Biarritz? Parce que, attention, on recite le site de l'Elysée. Biarritz est une ville basque qui entretient une tradition d'accueil riche et vivante, reconnue et appréciée. Parce que Biarritz, c'est une station balnéaire de l'océan Atlantique, réputée pour ses vagues et ses surfeurs. Biarritz innove dans l'économie bleue. On a trouvé une autre définition de ce que pourrait être Biarritz pour cet été, et on vous la donne tout de suite.
Et oui, parce qu'un certain nombre de personnes qui ne sont pas dupes de ce message du gouvernement ont mis en place un appel à la mobilisation contre le G7 et son monde. Et donc, du coup, c'est ce qui s'appelle la plateforme du Pays Basque. Et donc, pour cette plateforme du Pays Basque, le G7, en réalité, en fait, c'est ce qui regroupe les 7 puissances économiques occidentales. Donc, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et le Canada. Et en réalité, du coup, ce G7 amène à établir une hiérarchie entre les pays qui va distinguer, en fait, quels pays sont puissants et idéologiquement bien alignés et ceux qui ne le sont pas. Et donc du coup, c'est le G7 qui soutient le libre-échange, la déréglementation, l'austérité budgétaire, et qui du coup en fait a créé toutes les inégalités sociales qui sont en croissance à la fois constante depuis à peu près 100 ans. Et généralement du coup, les sommets de ce G7, en fait, ça va symboliser en fait la domination des principales puissances occidentales, et ça sert surtout en fait à faire passer les compromis les plus favorables aux intérêts du capitalisme. Donc c'est souvent dans le cadre de ces compromis que se décident les politiques économiques et financières qui seront imposées à tous les peuples du monde, même ceux qui ne font pas partie du G7. Et notamment, du coup, ce prochain sommet aura une spécificité parce qu'il se déroule au Pays Basque, du coup sur un territoire où la résistance à l'exploitation capitaliste, à l'oppression impérialiste et hétéropatriarcale sont enracinées et vivaces. Et du coup, en réalité, le monde du G7, ce n'est pas du tout ce qui est marqué sur le site de l'Elysée, mais en fait, l'objectif, ça a été longtemps et toujours aujourd'hui de colmater au mieux les crises successives du capitalisme en imposant au monde le carcan néolibéral. Donc aujourd'hui, en fait, c'est le but du G7, c'est de sauver les participants, pour les participants au G7, de sauver le système des conséquences des politiques qu'ils ont adoptées eux-mêmes depuis plus de 40 ans. Donc en réalité, en fait, à cause du G7, c'est une bonne partie de l'humanité qui est privée des droits élémentaires contenus dans la Déclaration universelle des droits humains. Et du coup, c'est aussi à cause de ce G7 que des peuples sont toujours niés ou violemment opprimés et leur droit à l'autodétermination toujours refusé, du coup, puisque c'est un conglomérat de pays puissants qui va décider pour le reste du monde. Et au sein même de ces pays, au sein même du G7, au cœur de l'Europe, c'est les politiques d'austérité qui entraînent la dégradation des conditions de vie et de travail des personnes qui font partie des pays du G7. Et alors du coup, les thématiques mises en avant sont toujours pensées dans l'idée de répondre aux critiques de son illégitimité. En fait, du coup, le G7 va toujours mettre en avant des thèmes d'actualité, il va inviter un peu des acteurs de la solidarité, de la société civile à débattre. Mais en fait, la réalité, c'est que malgré cette volonté affichée de mettre en avant la réponse aux critiques, le G7 n'a jamais tenu ses engagements. En fait, ces déclarations finales sont toujours une liste de bonnes intentions jamais suivies et de mesures qui sont concrètes, jamais concrètes ou contraignantes. Donc par exemple, en 2005, on avait l'aide au développement, en 2013, on avait la lutte contre les paradis fiscaux, et en 2017, pas si loin que ça, on avait une réflexion pour les droits des réfugiés. Donc, du coup, on se rend bien compte qu'en réalité, les intentions qui sont émises à la fin des G7 sont jamais suivies d'effet, et c'est juste un petit vernis qui permet de cacher au contraire toutes les mesures néolibérales et la défense du capitalisme qui est mise en place au sein de ces sommets. Et en plus, qu'est-ce que ça veut dire le G7 pour le territoire où ça se passe? Ça veut dire un certain nombre de restrictions. Par exemple, en fait, ça veut dire que dans le Pays Basque, pendant toute la durée du G7, il va y avoir une importante limitation des libertés publiques de circulation et aussi de manifester, et un véritable état de siège avec une occupation policière complètement étouffante. On annonce ainsi pour le G7 à Biarritz d'août 2019 la venue de 15 000 militaires et policiers. Et donc du coup, face à ça, les militants et les militantes s'organisent parce qu'ils ne veulent plus accepter le G7 et son monde, parce que pour elles et eux, l'utilité du G7, personne n'y croit plus, le goût du G7, personne n'en veut plus, c'est toujours un gaspillage d'argent public, et la meilleure solution pour répondre aux questions que pose le G7, c'est sa dissolution pure et simple. Donc au sein du Pays Basque, ils et elles se mobiliseront à l'occasion du G7 d'août 2009, parce que le monde qu'il incarne, le G7, doit changer profondément et dès maintenant. Le but est de construire un autre monde, car c'est possible et urgent, et le Pays Basque doit aussi y prendre part. Donc les militants et les militantes qui ont écrit cette plateforme demandent à ce qu'on se mobilise pour mettre en place la rupture avec la logique capitaliste basée sur l'exploitation, la fin du patriarcat, la division sexuée du travail, c'est un sacré programme, l'action déterminée contre le dérèglement climatique et en faveur de modes de vie respectant et préservant les écosystèmes, un monde basé sur la solidarité entre les peuples, l'anti-impérialisme et l'internationalisme, et des relations internationales démilitarisées. Mais c'est aussi le pouvoir de décider démocratiquement de toute l'organisation de la vie en commun, ainsi que le droit à l'autodétermination pour tous les peuples, mais aussi la défense défense de la diversité culturelle et linguistique et l'égalité, enfin, réelle des populations soumises au racisme. Les mêmes droits pour toutes et tous, les habitantes et habitants de la planète. Donc, ces militants et militantes du Pays Basque invite toutes les entités en accord avec cet appel à les rejoindre et à du coup participer au contre-sommet qui aura lieu lors du G7 d'août 2019 à Biarritz. On peut retrouver bien entendu, j'imagine, cet appel sur l'internet mondial en tapant contre le G7 et son monde.
Oui, ouais, comme ça.
Et du coup, et ben peut-être que cet appel contre G7 permettra de libérer une parole qui a aussi été libérée lors du procès Baupin.
Tout à fait. Excusez-moi, c'était pour donner les dates.
Ah ouais.
Parce qu'en fait, alors le G7, il se tient du 24 au 26. Alors après, quand c'est qu'aura lieu le contre-rassemblement, c'est pas encore dit sur l'internet mondial. Mais petit à petit, les infos, elles vont paraître. Et puis, on vous les transmettra aussi. Et pardon, une petite nouvelle de Baupin.
Petite nouvelle de Baupin. Donc, Baupin, c'était son procès. Enfin, c'était pas lui qui était en procès cette semaine, mais plutôt les femmes qui avaient porté plainte contre lui. Il a porté plainte contre elles pour diffamation. Et on a retrouvé sur un site qui s'appelle Radio Parleur et qui met en libre diffusion des documentaires audio. On a retrouvé un documentaire qui parle de cette affaire Baupin et qui donne la parole à certaines des victimes de Denis Baupin. Vous pourrez donc écouter ça tout de suite.
On est là vraiment à un moment où ce procès et la réaction qu'aura le magistrat sera vraiment déterminant. Pendant ma plaidoirie, ça me faisait penser au procès de Bobigny en 1972 où Gisèle Halimi avait plaidé pour une femme qui avait aidé à avorter à l'époque où la loi n'était pas encore passée. En fait, ce sont des moments dans l'histoire où ce type de procès permet de faire avancer les choses, de faire bouger les lignes.
Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
Je suis avocate Claire Moléon et je représentais Madame Isabelle Attard, qui était une des victimes de Monsieur Denis Baupin et qui s'est retrouvée sur le banc des prévenus pendant cette procédure en diffamation. Aujourd'hui, on a en fait un procès inversé où les victimes de Monsieur Denis Baupin, qui avait pris la parole au micro de France Inter et qui s'était confié à Mediapart, se retrouvent aujourd'hui sur le banc des accusés puisqu'elles sont poursuivies pour avoir porté atteinte à l'honneur notamment de Monsieur Denis Baupin. À l'origine, les victimes avait porté plainte, il y a eu une enquête pénale. Cette enquête pénale a été classée sans suite puisque le parquet a considéré que les faits étaient prescrits. Ce qui s'est joué vraiment, ce qui était au cœur de ce procès, finalement, c'est la possibilité pour les victimes de raconter ce qui leur était arrivé pour la première fois, d'avoir un juge en face d'elles et de pouvoir expliquer ce qu'elles avaient subi, ce qu'elles avaient vécu. Cette libération de la parole dont on a beaucoup parlé pendant le procès et cette écoute qui était là en face d'un juge, mais aussi avoir enfin un public qui les écoute. Donc là, la libération de la parole des victimes, non seulement des prévenus, mais aussi des autres. Les autres, c'était les femmes qui ont été citées comme témoins, qui ont raconté aussi pendant le procès qu'elles aussi avaient été victimes d'autres agissements complémentaires. Et donc ça a permis à toutes ces femmes de pouvoir s'exprimer et raconter ce qui leur était arrivé. Deuxième aspect, c'est du côté des hommes, plusieurs témoins qui ont été cités par les victimes pour venir expliquer que finalement, eux aussi étaient au courant de ce qui s'est passé. Et pour la première fois, ils ont reconnu qu'ils savaient, tout le monde savait, que les personnes, toutes ces femmes leur en avaient parlé au détour d'une conversation, mais que leur réaction avait été de dire finalement on peut rien faire, finalement c'est pas si grave. Et pour la première fois, ces personnes-là, elles ont reconnu non seulement qu'elles savaient, elles ont reconnu leur responsabilité et surtout elles se sont excusées. Et ça a été un moment qui a été très fort pour les victimes sur le banc des prévenus. C'était la première fois qu'on disait publiquement qu'elles n'étaient pas des menteuses et pas des affabulatrices.
Descends.
Annie Lamère, je suis conseillère régionale LV d'Île-de-France. J'ai été une victime de Denis Baupin, mais aussi j'étais là en correctionnel, donc accusée. Je fais partie des quatre premières qui ont témoigné contre Denis Baupin. J'ai partie des quatre premières qui ont dit que Denis Baupin nous avait soit agressé, soit harcelé. Moi, il m'a harcelé et agressé. Vous avez réagi comment quand vous avez appris qu'il vous poursuivait en justice ?
À cette époque-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Parce qu'on pouvait penser qu'il dirait, vu le nombre, on est quand même très nombreuses, on aurait pu penser qu'il se dirait que, voilà, je vais faire amende honorable et on passe à autre chose. Donc j'ai trouvé complètement aberrant. J'avais l'impression qu'il se tirait une balle dans le pied.
Ce n'est pas du marivaudage dont on parle, ce n'est pas du libertinage.
Edoui Pianel, poursuivi en tant que directeur de publication de Mediapart.
Et qui force pour obtenir des faveurs sexuelles. Et c'est cela la révolution MeToo. C'est de dire non, c'est non. Et quand c'est non, c'est non. Eh bien, c'est ce que nous défendons. Au fond, nous sommes là, nous, journalistes, nous avons entraîné ces victimes à parler. Et donc, nous sommes là à la fois pour défendre notre honneur de journaliste, mais aussi pour défendre la dignité de ces victimes.
Je suis Hélène Debost, adjointe au maire du Mans et conseillère départementale de la Sarthe. Et j'étais cette semaine avec 6 autres femmes, les journalistes de Mediapart et les directeurs de publication Mediapart et France Inter, sur les bancs des accusés. On a appris notre mise en examen pour diffamation le 8 mars 2017. Pile un an après le début de l'enquête, en tout cas, parce que l'enquête a été publiée en mai, mais pour nous, elle a commencé en mars.
Et comment vous avez réagi quand vous avez appris que Denis Baupin n'allait pas venir au procès, qu'il intentait ?
C'est paradoxal parce que, en fait, c'était... il y avait une forme de soulagement du fait de savoir qu'on n'aurait pas sa personne physique. On sait en plus que c'est mal de ne pas venir, on sait que c'est lâche, parce que nous, on est pété de peur. Moi, j'avais vraiment une peur panique de son visage et de ses yeux. Donc savoir qu'il ne vient pas, on sait que d'une part, il a plus peur que nous. Donc ça c'est énorme, parce que ne pas venir c'est qu'il a plus peur que nous et qu'en plus on va être épargné de son visage. Et en plus c'est indigne, parce que nous, même si on a peur, on est venu. Pour le grand public, MeToo est un début. Moi c'est pas du tout mon histoire à moi en fait. Pour moi le début dans ce droit que prennent les femmes à dire stop, ça commence avec des SK, mais ça se passe très mal. Mais il y a des gens qui continuent à enquêter, des femmes journalistes qui continuent à enquêter. Donc on a l'impression que les choses elles apparaissent avec MeToo et un hashtag, mais c'est pas du tout ça en fait. La réalité de ce changement profond, c'est quelque chose qui se fait par étapes et par strass dans la tête et dans l'inconscient collectif des hommes et des femmes. Les faits dont j'ai parlé se sont passés pour moi fin 2011, donc quelques mois après l'affaire DSK. Donc en termes de blocage et compagnie, c'est assez important. Et puis après, il y a une autre étape qui pour moi, en effet, la publication en mai 2015 de cette tribune dans Libération qui s'appelle « Bas les pattes », une tribune d'une trentaine de journalistes qui dénoncent le sexisme et des faits en fait, de harcèlement et d'agression dont des hommes politiques se rendent coupables sur elle à l'Assemblée nationale. Donc il y a eu des étapes pour chacune d'entre nous. Et puis après, l'étape ultime, en fait, finalement, c'est lui qui la provoque par cette espèce de tel sentiment d'impunité qu'il ose se mettre du rouge à lèvres. Donc pour moi, non, MeToo, c'est la suite de tout ça.
Est-ce que vous redoutez aujourd'hui le rendu du procès ?
Là, je dois dire qu'après cette semaine, les propos de la procureure, les 3 heures de plaidoirie de nos avocats et la nullité, l'aberration, l'ignominie de l'attitude de Pierra et de son réquisitoire de 3 heures, non, là, je suis assez confiante et soulagée, tellement soulagée.
Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet.
Rubrique Crève.
Vive la République, vive la France.
Les mouvements sociaux.
Mais notre règne arrivera. Votre règne finira.
Rien et personne ne pourra étouffer une révolte.
Tu as semé la graine de la haine, donc tu la récoltes.
Les rebelles et les rebuts ont tous opté pour le boycott. Faisons en sorte que les...
Et voilà, de retour dans les studios, on va maintenant vous parler du mouvement des Gilets jaunes. Et on commence par une petite anecdote qui nous a marqué cette semaine. C'est ce boulanger qui a été arrêté pour avoir refusé de servir des policiers et qui a été condamné pour ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? C'est l'employé d'une boulangerie parisienne qui a donc refusé de laisser des policiers entrer dans sa boutique lors de l'acte 12 des Gilets jaunes, donc à Paris, le 2 février dernier. Alors pourquoi est-ce qu'il a refusé de les laisser rentrer ? Eh bien parce qu'il a vu arriver plusieurs personnes cagoulé et armé, il s'est dit oulalalalala, ça va pas avec les croissants et les pains au chocolat, non, vous ne passerez pas. Et ben ça n'a pas plu aux flics qui du coup ont porté plainte et ont demandé l'homme encourait en théorie 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, donc pour avoir refusé de vendre de laisser rentrer des policiers dans sa boulangerie. Au final, il a opté pour 70 heures de travaux d'intérêt généraux. Mais voilà, pour vous dire que laisser rentrer un flic, c'est pas automatique. Après cette petite anecdote d'introduction, on va vous faire un bilan partiel de ces manifestations, mais aussi de en quoi est-ce qu'elles attaquent le capital. Parce qu'on nous fait beaucoup des bilans des violences, mais finalement, pas des bilans de ce qu'on arrive à faire et à créer dans la rue. On a trouvé sur Internet la compilation de plusieurs articles de médias locaux d'un peu partout qui relatent donc des actes offensifs contre ce monde de domination et notamment autour des manifs de samedi dernier. D'ailleurs, tous ces actes offensifs ne sont jamais limités au samedi pour qui veut bien les voir tout le reste de la semaine. À certains endroits, il faut savoir qu'on a peu d'infos qui sont sorties dans la presse, chose qui est de plus en plus banale, notamment lorsque la révolte persiste, et ça fait maintenant plus de 2 mois et demi que le mouvement des Gilets jaunes a commencé. Le désastre financier causé à l'État et au capital par les insurgés depuis fin novembre 2018, c'est du jamais vu depuis de nombreuses années. Rappelons par ailleurs qu'il y a plusieurs semaines, les organes de presse se fendaient de plusieurs articles évoquant la catastrophe économique liée à ces manifestations. Le montant des dégâts dépassait déjà ceux causés par les nuits d'émeute de novembre 2005. De plus, la volonté de rester incontrôlable est claire dans de nombreuses villes, en dépit des tentatives de légalistes ou personnes plus pacifiques pour rétablir l'ordre par l'instauration de services d'ordre ou de déclarations de manifestation. De ces dernières manifestations, on vous en parlera aussi tout à l'heure, ressort la volonté de lutter contre les franges réactionnaires et fascistes des Gilets jaunes. Petite anecdote encore, en ce début de semaine, des commerçants de plusieurs villes et métropoles ont demandé à être reçus pour une réunion d'urgence au gouvernement, compte tenu des, je cite, préjudices subis par les commerçants après 13 semaines de mobilisation des Gilets jaunes. Ils disent être pris en otage par des casseurs et les pertes sont de l'ordre de plusieurs millions d'euros dans de nombreuses grandes villes. L'association demande donc au Premier ministre une rencontre avec le ministre de l'économie et la ministre de la cohésion des territoires afin de définir les modalités d'indemnisation et d'accompagnement au nom de la solidarité nationale. Et dimanche 10 février, le ministre de l'Intérieur Castaner a affirmé que depuis le début du mouvement, 1900 commerces ont eu leurs vitrines vandalisées rien que sur Paris.
Et oui, Paris où ce samedi les émeutes ont une fois de plus fait rage. C'est un peu pompeux comme ça les émeutes. Donc bon, en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu divers cortèges sauvages qui ont sillonné, et ben une fois n'est pas coutume, les quartiers bourgeois de la capitale. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? Et ben des banques, des concessionnaires automobiles, mais aussi des agences d'intérim, d'assurance et même immobilières ont été défoncées. Et pour que tout le monde ne soit pas en reste, et ben des bagnoles de luxe ont été incendiées et même un véhicule militaire de l'opération Sentinelle qui était garé pas de bol au pied de la tour Eiffel, et un autre véhicule de l'armée a eu ses vitrines brisées. Et alors, finalement, il n'y avait pas trop de fascistes dans les cortèges parisiens, c'est ça, non? Et les antifascistes, du coup, avaient les mains libres et du coup, ils ont saisi l'occasion pour du désordre ambiant pour aller rendre visite à la librairie qui sert de passerelle entre la droite et l'extrême droite, et ça s'appelle la Nouvelle Librairie. Alors du coup on vous redonne l'adresse, qu'on est sympa, c'est 11 rue de Médicis à côté du Sénat, et qui lors de cet acte 13 a été ouverte et attaquée vers 14h30. Et malheureusement, l'intervention des CRS semble avoir limité les dégâts.
Du côté de l'ouest de la France, à La Roche-sur-Yon, cette jolie ville moyenne dont on parle rarement, plus de 1000 personnes ont pris part à la manif régionale après celle d'Angers et celle de Nantes. Des panneaux publicitaires, des banques, au moins 2 agences d'après France Bleu et Loire-Atlantique, ou encore l'hôtel du département, et pas du débarquement, l'hôtel du département, j'ai du mal, ont été pris pour cible. Des poubelles ont été incendiées, des barricades avec du matériel de chantier érigé. L'entrée de la banque BNP Paribas rue Sadi Carnot, qui était barricadée de planches en bois, a été forcée et s'est fait péter plusieurs vitres. Plusieurs commerçants avaient baissé le rideau. Au Super Rue Express, on a pris la décision de fermer peu avant 17h.
À Nantes, il y a eu de nombreux tags, comme souvent. 11 personnes ont été arrêtées par les flics, 3 d'entre elles ont été déférées au parquet ce lundi, dont une personne pour une mise à exécution d'un jugement. Pour les 8 autres personnes interpellées, 5 font l'objet d'une convocation par un officier de police judiciaire, 2 obtiennent une composition pénale et une dernière personne bénéficie d'un classement sans suite.
À Rennes, ce sont 500 personnes qui ont affronté la police lors de cet acte 13, et comme pour Nantes, la presse locale ne fait pas état de vitrines brisées.
à Lorient. Lorient, bien sûr, il y avait 3000 personnes dans les rues, seulement 2000 selon la police, donc 3000 personnes dans les rues à Lorient qui ont participé à la manif régionale pour la Bretagne. Des affrontements ont eu lieu à proximité du commissariat central, bien protégé. En vue de cette journée, malheureusement, 10 personnes ont été interpellées selon le Télégramme. Il y aurait eu des dégradations à la fin de la manifestation, mais ce serait que quelques feux de poubelle, une vitrine cassée et des pavés démontés pendant le face-à-face avec les CRS.
Au Mans, des fachos de l'Action française arborant des drapeaux royalistes se sont fait dégager du cortège illico presto sous des slogans tels que « Dehors les rois, cassez-vous » ou des cris comme « Guillotine, on vous a déjà coupé des têtes auparavant ». Un court récit est paru sur Indie Media Nantes.
Et à Bordeaux, c'est plus de 5000 personnes qui sont descendues dans les rues. Comme lors des 12 derniers épisodes, des centaines de personnes ont affronté les forces de l'ordre et ont cassé divers vitrines. Il est à noter que, comme pour de nombreuses villes, la préfecture ne communique plus de chiffres sur la manifestation. Dès lundi, une dizaine de salariés de la Chambre de commerce et d'industrie et de la Chambre de métiers se sont engagés dans un porte-à-porte inédit. Leur mission est d'aller au contact des commerçants les plus impactés par les manifestations des Gilets jaunes. Selon les études produites par la Chambre de commerce et d'industrie, l'activité des commerces bordelais a baissé de 51% les samedis.
Bien joué les Gilets jaunes qui à Toulouse, du
capitale
coup, très...
du Sbeul, Toulouse.
Très exactement, avant que ce soit Biarritz, bien entendu. Et du coup, il y a eu à Toulouse entre 5000 et 7000 personnes pour l'acte 13. Et du coup, il n'y a pas eu a priori cette semaine de casse majeure, mais pour autant, la répression est de plus en plus forte à Toulouse, où un texte est paru sur yata.info qui concerne le placement en détention provisoire d'un compagnon après son arrestation lors de l'acte 12. Donc
on va vous en parler d'ailleurs.
Et ouais, c'est ça que j'allais dire. On vous en parlera plus tard dans cette émission.
Excuse-moi.
Mais pour autant, la violence des flics, elle, est toujours de plus en plus intense. Ainsi, selon l'Observatoire des pratiques policières, le nombre de blessés parmi les manifestants serait plus important place du Capitole. Ainsi, une femme a été blessée au village par un projectile identifié comme venant d'un tir de LBD et 3 photographes de presse ont été touchés par une grenade de désencerclement. Mais par ailleurs, une baston a éclaté entre une quinzaine de faf repérés en queue de cortège à l'angle de la rue de Metz, donc je parle bien de Toulouse, et de la rue d'Alsace-Lorraine, je parle toujours de Toulouse, mais fidèle à leur idéologie pro-patronale, en parfaite milice des riches et du capital, les fachos ont expliqué que leur présence au sein du cortège avait dans le but de chasser les casseurs. Bou, bou, bou.
Et Montpellier, où plusieurs centaines de personnes ont manifesté, parmi elles, attention, tenez-vous, un enfant de 12 ans. Il a été arrêté par d'héroïques forces de l'ordre parce qu'ils l'ont surpris en train de viser les vitres de la préfecture et un drone avec une fronde. Sinon, à part ça, il y a 1500 personnes qui étaient dans les rues. Et c'est en fin de journée que les affrontements ont été les plus marquants. Contre le monde de l'argent et la marchandise, il y a eu un véritable acharnement sur des banques, selon le Midi Libre. Des distributeurs automatiques auraient même été attaqués.
Et à Lyon, on vous en reparle tout à l'heure. La manif de samedi a été marquée par de gros affrontements avec les fachos qui ont chargé le cortège. Au bout de quelques minutes, la petite centaine de soldats de la peste brune ont dû se replier.
Et à Besançon, on ne parle pas souvent de Besançon, mais c'est des centaines de personnes qui sont présentes place de la Révolution et qui ont choisi de déserter le centre-ville pour tenter d'aller bloquer le centre commercial qui se trouve au nord-est de la ville en empruntant les voies de tram plutôt que d'aller au casse-pif à la Pref. De nombreux affrontements se sont déroulés tout l'après-midi. Coups de flashball, arrêt des têtes et rafales de lacrymo qui n'ont pas découragé certains et certaines, qui ont continué jusqu'à la gare Viotte avant de se faire une nouvelle fois gazer et se disperser. C'est des batailles de rue avec les uniformes qu'on retrouve un peu dans d'autres villes comme à Dijon et comme à Metz.
Et oui, Metz, dont on ne parle pas suffisamment souvent non plus dans ce Canu Info, parce que ce samedi dernier, les affrontements ont été très très violents. Alors selon la patronne de la police locale, mais selon aussi les journaux locaux. En effet, la manif a assez vite débordé de son parcours traditionnel. Et il y a eu un premier face-à-face avec les forces de l'ordre qui s'est vite arrêté. Et ensuite, à la tombée de la nuit, devant le pont de la préfecture, il y a eu, selon le patron de la police locale, qui a eu un petit peu peur, l'attaque la plus violente perpétré à Metz. Donc en gros, c'est juste des manifestants et manifestantes qui ont attaqué la Pref et les forces de l'ordre l'ont repoussé, les manifestants dans toute la ville, à coups de bombes lacrymogènes. et qui gazait du coup au passage les familles et leurs enfants qui étaient dans le centre-ville. Et donc concernant la dégradation, il y a quand même plusieurs vitrines de banque qui ont été explosées, la terrasse et le mobilier d'un restaurant qui ont été saccagés, une grille d'avaloir, me demandez pas ce que c'est, mais en tout cas des pavés et des panneaux de signalisation qui ont été arrachés et balancés sur les flics, et même un horodateur, attention les personnes en colère à Metz, qui a été mis hors service.
Aïe, aïe, aïe. Et on part bien plus au sud puisqu'on va à Ajaccio où le 8 février, malheureusement, deux personnes sont passées en jugement parce qu'ils avaient fait des trucs quand même assez cool comme avoir tagué à la peinture jaune les initiales GJ sur le portail de la CAF et surtout pour avoir dégradé ce portail, ce qui a empêché les employés d'aller travailler. Oh, les pauvres! Il y avait un trentenaire qui était poursuivi pour dégradation, entrave à la liberté de travail et rébellion, mais aussi dégradation d'un radar automatique et menace de mort à l'encontre du président Emmanuel Macron. Grosse menace de mort puisqu'il avait écrit des choses sur son gilet. Il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement, dont 2 mois avec sursis, l'obligation d'indemniser les victimes et l'interdiction de détenir une arme. Alors on ne sait pas si Macron a touché de l'argent puisqu'apparemment il était victime de quelque chose écrit sur un gilet et son pote de 24 ans poursuivi pour dégradation, lui a été condamné à 3 mois de prison avec sursis.
Et à Motreff, dans le Finistère, le 7 février 2019, il y a déjà quelques jours donc, la résidence secondaire du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a été ciblée par un incendie volontaire. Peu d'infos ont filtré sur les dégâts causés par les flammes. On sait juste qu'une porte d'entrée a été détruite et que les murs d'une pièce ont été noircis par la fumée. Plusieurs domiciles et permanences d'élus de la majorité présidentielle ont été pris pour cible depuis le début du mouvement des Gilets jaunes en novembre et certains d'entre eux ont fait l'objet de menaces de sources parlementaires. Une cinquantaine de députés ont été visés ces dernières semaines. Et tout de suite, Gilets jaunes, colère noire, l'incontournable.
Les gens de Paris se préparent, ils ont tout barricadé Paris. Sur le texte venant Paris, ils finissent par y calmer. Y'a des blindés avec des gaz incapacitants, des LV, des garantes pour faire céder les récalcitrants. Les rues sont quadrillées, la foule éparpillée. Ils nous ont torpillés et ils ont cru qu'on finirait par plier. Dans tous les quartiers, des cartes qui se débarrent vite. Les avenues et boulevards sidérants, des yeux écarquillés. La paquillée comme dans chaque lycée donne sans s'affliger les coups, sans savoir qui c'est. L'homme qui frappe, matraque, matière des mâchoires brisées. Des vises aussi, les civils craquent, les visages sont visés. Les gilets jaunes avisés qu'ils doivent vider les ronds-points. Ne plus tourner en rond dans les rues, ne plus traîner dans le coin. La police distribue les coups et Macron les bons points. On est loin de s'imaginer à quel point les beaux jours sont loin. Gilets jaunes, vert de rage et colère noire. Blanc comme un linge à l'idée de nourrir faux espoirs. Rouge de colère face à la terreur du terroir. Aux hommes en bleu qui laissent pour trace une peur dans nos mémoires. Gilets jaunes, matière grise qui nous sépare du sommet de la tour de Pise qui voit rouge comme elle part. À la renverse, on verse à sang des puissants et de leurs clébards. Une sortie de crise via le grand débat. Franchement débat, les rues de Paris s'enflamment, la bourse est incendiée. Sans cramer leur QG, tu sais que leur pouvoir reste entier. Les vitrines sont brisées, les berlines carbolisées. Les flics visées comme on voit déjà des gens agonisés. Pendant que les uns soient maîtrisés et les magasins pillés. Des gamins emportent le butin, de quoi se faire un billet putain. Dépassés par ce qui se passe, les bourgeois sont indignés. Pendant qu'on voit dans les yeux de ceux qu'observent des étoiles briller. Les puissants se mettent à prier, va savoir où ils se tairent. Un transpalette fera plier l'immense porte d'un ministère. Benjamin Griveaux se tire sans demander son reste. Petit père en aurait-on fait un martyr, on ne sera pas mystère. Pas une manif qui se termine sans un nouvel éborgné. Sans l'un d'entre nous à terre, débat que viennent quand même cogner. Faut-il s'étonner derrière lorsqu'un flic se fait boxer. Que la foule tranche en faveur du boxeur sans autre forme de procès. Gilets jaunes, vert de rage et colère noire. Blanc comme un linge à l'idée de nourrir faux espoirs. Rouge de colère face à la terreur du terroir. Aux hommes en bleu qui laissent pour trace une peur dans nos mémoires. Gilets jaunes, matière grise qui nous sépare du sommet de la tour de Pise qui voit rouge comme elle part. À la renverse, on verse à sang des puissants et de leurs clébards. Une sortie de crise via le grand débat, franchement débat. Les rues de Paris se remplissent, la police s'emplisse. Éric Trévide chant qui s'organise pour nous lasser. Mais le mot est passé, le projet s'est bridé, on s'est déplacé. Par petits groupes dispersés, les flics sont dépassés. Tous ceux qui se font serrer par les CRS sont tabassés. Après le décès d'Ileb, ils ne savent plus quel cap passer. Les gueules cassées, vu que c'est en force qu'ils veulent passer. Pas d'équivalent de violence avant loin par le passé. 17 y ont laissé un œil, mais je vois pas les tirs, c'est le 1000 blessés. Je suis stressé, y'a de quoi craindre le pire, le décès. Les street medics arrêtés par les flics agressés. Par LBDGLI ou bien d'autres joujoux à laisser. 4 mains arrachées, pas moins, et combien de traumatisés. Combien trimés, trop de malheureux dans le coma, qui sait. Comment se terminera tout ça, quand brûlera l'Elysée. Quand le premier de cordée épuisé sentira les vices.
c'est gilet jaune, vert de rage et colère noire, blanc comme un linge, à l'idée de nourrir vos espoirs.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu et vous étiez à l'écoute de L'Inconsolable et de son morceau Gilet jaune, colère noire, qui nous parlait des violences policières. Et il n'y a pas que lui qui parle des violences policières. Et ce qui est très inquiétant, c'est qu'il y a des gens de plus en plus, des organisations de plus en plus éloignées de nos préoccupations politiques, qui s'emparent de la manière dont est géré le conflit des gilets jaunes en France, à savoir l'Union européenne. Et ce soir, on vous parle aussi de l'ONU, qui dénonce les restrictions graves aux droits des manifestants des gilets jaunes. Ils dénoncent le fait que la France a restreint de manière disproportionnée lors des manifestations récentes les droits des gilets jaunes, et qu'ils appellent les autorités françaises à repenser leur politique en matière de maintien de l'ordre. Alors plus précisément, ils soulignent le fait qu'ils ont reçu des allégations très graves d'usage excessif de la force. Selon eux, selon les experts de l'ONU, les restrictions imposées aux droits ont également entraîné un nombre élevé d'interpellations, de gardes à vue, de fouilles, de confiscations de matériel de manifestants, ainsi que des blessures graves causées par un usage disproportionné d'armes dites non létales, telles que les grenades et les lanceurs de balles de défense ou de flashball. Tout ça, c'est des citations d'un rapport de l'ONU, c'est pas du tout des médias copains qui écrivent ça. Voilà, ils disent qu'ils craignent aussi que la réponse disproportionnée, alors à ces excès, ce qu'ils appellent les excès, c'est tous les actes un peu violents des gilets jaunes. Bref, ils disent qu'ils craignent que la réponse disproportionnée à ces excès puisse dissuader la population de continuer à exercer ses libertés fondamentales. Qu'il est très inquiétant de constater qu'après des semaines de manifestations, les restrictions et tactiques de gestion des rassemblements du recours à la force ne se sont pas améliorées. Voilà, voilà. Et ils sont d'autant plus inquiets, et on en reparlera après, qu'il y a une loi qui est en train d'avancer dans les différentes instances parlementaires autour de la restriction encore plus élevée du droit de manifester. Pour compléter ces propos de l'ONU, et aussi parce qu'on n'avait pas attendu l'ONU pour trouver que c'est scandaleux de se faire tirer dessus, de se faire arrêter en pagaille comme ça à ce point-là, on reprend les chiffres de Nantes Révolté, qui a fait une actualisation aujourd'hui de la répression et qui nous rappelle qu'il y a eu 8400 arrestations, 7500 gardes à vue, 1800 condamnations et aussi 316 personnes emprisonnées et 1500 personnes en attente d'être jugées. Voilà pour la manière dont est traité, enfin, dont l'État gère le conflit avec les gilets jaunes et toutes ces révoltes. Et puis aussi, il rappelle sur Nantes Révolté que les gens y sont arrêtés et condamnés pour des motifs de plus en plus délirants, comme avoir relayé un appel à manifester sur Facebook, avoir refusé de servir des flics dans une boulangerie, on en a parlé tout à l'heure, avoir été présent dans la rue à un moment où il ne fallait pas. Et il dénonce aussi la loi à venir, mais là...
Et la loi à venir, ouais, on va en parler, elle est passée à l'Assemblée nationale, donc elle n'a pas fini de faire sa navette au Parlement, puisqu'elle doit aussi être validée dans les mêmes termes au Sénat. Elle a été votée donc mardi 5 février en vote solennel à l'Assemblée nationale, et même s'il y a des députés LREM qui ont décidé de ne pas voter, ça n'a absolument pas bloqué ce vote, et donc elle a été adoptée, cette loi dite anti-casseurs par le gouvernement, anti-manifestants pour ses opposantes et opposants. Et là encore, on est allé voir du côté de Radio Parleur, qui a tendu le micro fin janvier, qui a tendu le micro à des opposants à cette loi, alors des gens qui viennent d'Europe Écologie Les Verts, du NPA, du comité pour le collectif Justice et Vérité pour Adama. Voilà, donc on va en entendre quelques-uns, peut-être qu'on coupera, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de tout écouter. Vous retrouverez ça dans tous les cas sur Radio Parleur.
Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien. Sur radioparleur.net.
Marco, la bella ciao.
Bella ciao,
bambino.
Bella ciao.
Bella ciao.
Je m'appelle Annick.
Bonjour Annick.
Qu'est-ce que vous faites ici ce soir, place de l'Assemblée nationale?
Je viens lutter contre la loi plus que scélérate, puisqu'elle défie la Constitution, qu'on essaye de faire passer pour réduire la liberté des citoyens et citoyennes françaises. C'est une limitation incroyable des libertés, tout simplement, parce que bientôt, on va être obligé de reprendre les banquets de la République, où il fallait faire un banquet pour pouvoir parler sans être inquiété. Donc on va se remettre à la tête de veau et à la tête de cochon, quoi, voilà.
Bon, donc on va commencer. Je remercie d'abord toutes les personnes qui sont là. Moi, je suis de l'association Droit au Logement. On a découvert le projet de loi il y a une dizaine de jours, qu'on a appelé, nous, le projet de loi anti-manifestation ou anti-manifestant. Rapidement, j'interviens sur le projet de loi. L'article 2 porte sur la mise en place d'une interdiction de manifester pour des personnes qui seraient identifiées par la police comme portant un risque grave de trouble à l'ordre public, qu'elles soient soupçonnées ou qu'elles soient condamnées, qu'elles aient été condamnées préalablement, mais sur le principe du soupçon, elles pourraient être, se voir signifier une interdiction de manifester, c'est-à-dire l'obligation de se présenter à un commissariat de police. Donc là, on voit bien, enfin, d'après les informations que nous avons, qu'un certain nombre de personnes ayant simplement un masque pour se protéger des gaz lacrymogènes, un masque en papier ou un foulard remonté au-dessus du nez pour se protéger les poumons, eh bien, cela aussi pourrait être incriminé. On a également ceux qui seraient, pour l'article 5, qui seraient condamnés pour détenir un objet pouvant constituer une arme, une agrafeuse ou un tournevis peut être considéré comme une arme. L'article 6 porte sur l'interdiction de manifester pendant 3 ans, c'est-à-dire la justice pourrait interdire pour des personnes condamnées. Dernière mesure, article 8, qu'elle viserait à poursuivre les personnes qui participent à une manifestation non déclarée.
Bon, des tracts, prenez des tracts à distribuer, s'il vous plaît. Merci.
Lorsqu'un État a uniquement la violence comme réponse, franchement, c'est mauvais. C'est mauvais, ça montre la fragilité de nos élus. Pour essayer d'avoir la paix sociale, ils éborgnent et amputent des manifestants. C'est de mon devoir de me mobiliser parce que voilà, c'est pas d'un régime autoritaire que j'ai envie.
Le peuple se révolte et donc une loi anti-manifestation.
Et vous pourrez donc écouter la suite sur Radio Parleur. À bientôt 3 mois d'une contestation massive et acharnée, le mouvement des Gilets jaunes n'en finit pas de ne pas finir. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas du goût du pouvoir. Samedi 2 février, alors que se prépare l'acte 12 des Gilets jaunes à Toulouse, les flics, munis d'une réquisition du procureur, procèdent à leur ronde habituelle. Contrôle d'identité, fouille, confiscation du matériel de défense, comme depuis des semaines, ils répriment en préventif.
Ce même jour, alors qu'il garde un enfant, un homme assis depuis la fenêtre à l'un de ses contrôles. Descendu fumer une clope dans la rue, il est à son tour contrôlé. N'ayant pas ses papiers, il est emmené au poste, où il refuse le fichage ADN. Il est alors placé en garde à vue. 48 heures plus tard, on apprend avec stupeur qu'il est présenté à un juge d'instruction, mis en examen pour association de malfaiteurs, refus d'ADN et identité imaginaire, et placé en détention provisoire.
2 jours plus tard, mercredi 6 février, en début de soirée, vers 20h30, deux perquisitions ont lieu, au domicile du prévenu et dans l'appartement dans lequel il se trouvait avant de descendre fumer une clope le samedi après-midi. En tout, c'est presque de 60 flics qui débarquent armes au poing dans les domiciles, refusant de montrer la commission rogatoire qui leur permet ces violations de la vie privée. Ils retournent toutes les chambres et les parties communes, garage compris, indistinctement, et saisissent ordinateurs, clés USB, téléphones portables, mais aussi thunes, tracts, livres, fringues ou encore factures. Ils iront jusqu'à fouiller les poubelles.
L'ensemble de la procédure paraît bien brinque-ballante, ça c'est un beau mot. En effet, parce que leurs dossiers sont vides, il va bien falloir les remplir. Pour ça, le fameux couple police-justice fabrique de la culpabilité à la pelle. Et tous les prétextes sont bons. Il s'agit pour eux de rendre des résultats, de justifier les moyens engagés et surtout, surtout, de montrer à la population que le pouvoir gère encore, de les faire rentrer chez eux et elles.
Fin janvier, la préfecture a annoncé la création à Toulouse d'un groupe d'enquête spécial Gilets jaunes composé d'une dizaine de policiers de la Sûreté départementale et d'investigateurs en cybercriminalité. Il travaille en collaboration avec le parquet et sous la direction du procureur. À leur disposition, les heures d'images produites chaque samedi. Il les passe au peigne fin avec pour objectif l'identification des manifestants et manifestantes. Déjà, une quarantaine d'enquêtes semblent avoir été ouvertes.
L'association de malfaiteurs qu'il ressort ici est de plus en plus utilisée ces dernières années, véritable fourre-tout juridique permettant à la justice et à la police de faire ce qu'ils veulent. Elle ne vise pas à incriminer pour des faits en particulier, mais à réprimer à plus grande ampleur. Ce qui est visé, ce sont les liens, le soutien, l'ambiance qui permet à la contestation d'exister sous toutes ses formes. Et c'est l'entente en vue d'eux. Cela leur permet notamment de mettre en place des écoutes téléphoniques, des géolocalisations, des filatures, des perquisitions, de la surveillance informatique et de suspecter ceux et celles qui ne veulent plus subir sans rien dire.
La procédure à laquelle on assiste ici est d'autant plus exceptionnelle qu'elle se banalise. C'est en fait la continuité de ce qui se passe dans la rue. En frimpant pour en effrayer sans, marquer les corps et les esprits, instiller la peur et l'angoisse, faire rentrer les gens chez eux, enrayer la dynamique de lutte. Les blessures physiques et psychologiques, les mains arrachées, les regards éborgnés, les traumatismes face aux violences et leurs nuages de gaz. Les condamnations à la chaîne dans les chambres de comparution immédiate, les peines de prison, les amendes et les interdictions de manifester. Les instructions, les perquisitions, le sentiment permanent d'être scruté, épié, observé. C'est l'arsenal dont dispose aujourd'hui le pouvoir pour maintenir son ordre et ses privilèges.
La violence que déploie aujourd'hui le pouvoir pour se défendre a cela d'exceptionnel qu'elle vient dévoiler la brutalité que nous subissons au quotidien. Mépris, exploitation, boulot de merde, loyer démesuré, crédit à vie et vice-versa. Ce sont ces conditions d'existence face auxquelles nous sommes des dizaines de milliers à crier nos rages. Et pour ceux qui nous exploitent, pas question de lâcher. Ils ont un monde de privilèges à défendre. Ils ont leur beurre à faire sur notre dos, des armes policières et juridiques pour continuer à le faire.
À travers ce type d'enquête ou d'instruction, c'est le mouvement en cours dans son ensemble qui est directement attaqué. C'est une tentative de plus visant à diviser les manifestantes et les manifestants en isolant certaines personnes, alors même que l'on assiste depuis plusieurs semaines à un large mouvement populaire qui prend la rue en s'exprimant de manière plurielle. Ne nous laissons pas faire et affirmons ensemble, nous sommes toutes et tous des malfaiteurs et des malfaitrices.
C'était un texte que vous pouvez relire sur le site Mutu de Toulouse, Yata.
Reportage sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette nuit.
Du Rhône de la région qui s'appelle Stéphane Boulet.
En région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite.
Pour savoir où est-ce qu'on en est de la lutte des instits à Vaux-en-Velin.
Petit reportage sur la grève qu'on a vu à les interjouer sur la
base du rassemblement par le
droit de l'Union qui est
l'école de l'Opéra de Lyon.
Canu Info du vendredi.
Rubrique locale.
Et pour cette rubrique locale, on a choisi de vous lire un texte publié sur Rebellion et qui se nomme « Sans les FAF, la fête est plus folle ». Quelques réflexions à propos de la confrontation avec les FAF lors de l'acte 13 des Gilets jaunes.
Samedi 9 février à Lyon, lors de l'acte 13 du mouvement des Gilets jaunes, l'extrême droite radicale, c'est-à-dire le Bastion Social, l'Action Française, les hooligans de l'OL et quelques membres des OAF Paris a été défaite dans la rue et sortie du cortège. C'est la première fois depuis le début du mouvement des Gilets jaunes à Lyon, et sans doute depuis bien longtemps, d'une manière générale dans cette ville, qu'un groupe aussi conséquent de FAF attaque un cortège, se fait repousser, puis chasser de la manifestation.
Lassés de se faire traquer depuis 12 actes parce qu'ils et elles n'ont pas la bonne couleur de peau, les bonnes couleurs politiques, parce qu'elles ne correspondent pas dans l'imaginaire fasciste à ce qu'il faut éradiquer, de nombreuses personnes ont répondu présentes à l'appel antiraciste et antifasciste lancé pour ce 13e acte et se sont organisées en conséquence.
C'est une victoire sans nul doute, localement, car on connaît l'implantation des FAF ici et ce genre de moment est suffisamment exceptionnel pour être précieux. Renverser le rapport de force, se tenir ensemble, estomper un tant soit peu la peur. Car ce qui se joue ici, c'est aussi et surtout une guerre psychologique. Il était vital de pouvoir se dire, de se prouver, même qu'il était encore possible de participer à un acte sans crainte d'avancer certaines valeurs, certains positionnements politiques à l'intérieur du mouvement des Gilets jaunes. Que non, définitivement, ce ne sont pas les FAF qui tiennent la rue, ou en tout cas, que cela n'est pas inexorable.
Plus largement, dans un mouvement où une frange de l'extrême droite radicale se recompose dans la rue, se dotant d'une identité politique presque exclusivement tournée vers le combat de rue, reprenant les codes du hooliganisme, où il est nécessaire de lui opposer une résistance collective. comme ce fut le cas à Paris lors de l'acte 12, et puis à Lyon samedi dernier. Lyon étant le bastion historique de l'extrême droite radicale, ne pas leur laisser la rue dans cette période mouvementée paraît primordial.
Tout cela est en effet paradoxal et frustrant, que plusieurs dizaines de FAF concentrent autant d'énergie et d'attention. Politiquement, ils ne représentent pas grand-chose. Leur activisme est plutôt réduit. Si ici à Lyon, au commencement, ils ont investi avec une certaine intensité le mouvement des Gilets jaunes, déployant des banderoles et prenant la tête des cortèges, assez vite, ils se sont consacrés à leur activité favorite, la chasse. Se réduisant par là même à l'impuissance politique, délaissant le mouvement en lui-même. Le problème, c'est qu'ils ont poussé celles et ceux qu'ils traquent chaque samedi vers la même impuissance, vers le même isolement.
Et c'est en ça qu'ils constituent les parfaits supplétifs des forces de l'ordre. Car malgré toute leur rhétorique anti-flic, le fascisme produit l'ordre là où ils vont, où ils voient des ordres. C'est sa fonction historique. En cela, les FAF constituent un rempart bien utile au pouvoir en place.
Et c'est donc pour cela qu'il est nécessaire de les chasser inlassablement des cortèges. Pour qu'enfin la manifestation puisse déborder sans crainte d'une attaque de l'intérieur. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé samedi dernier, en fin d'après-midi à Lyon.
Sans faire abstraction des forces de l'ordre qui restent bel et bien les principaux fauteurs de troubles, sans perdre de vue qui mutile et éborgne, ni qui en donne l'ordre, sans oublier tout ce contre quoi les gilets jaunes se dressent, ni toutes les contradictions qui traversent ce mouvement.
Indiscutablement, sans les FAF, la fête est plus folle.
On fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Alors, eh ben l'agenda, la première chose dont on a envie de vous parler, c'est cette manifestation de demain, du coup. Donc demain, ça va être l'acte 14 des Gilets jaunes, et le rendez-vous est donné à 14h, place Bellecour. C'est un peu les mêmes conseils que les semaines précédentes, ça veut dire allez-y avec des copains. Donc voilà, il y a des FAF, il y a des antifas, il y a plein de Gilets jaunes, mais protégez-vous et restez groupés. Voilà, donc on vous laisse votre soirée du samedi soir de libre pour faire ce que vous voulez. Mais par contre, le dimanche, qu'est-ce qui se passe ? Il y a le Kinoscope qui s'invite au squat. Le je ne sais quoi. Le je ne sais quoi, c'est, si je ne m'abuse, le collège Maurice Sève dont on vous a déjà parlé plusieurs fois. Et donc le Kinoscope, qu'est-ce que c'est ? Et ben du coup, c'est une asso qui vous propose tout un dimanche de rencontres en événement du coup en soutien au squat. Ça va être l'occasion de se rencontrer, de partager des moments conviviaux, de découvrir quelques artistes pas piqués des hannetons et de sensibiliser les visiteurs et les visiteuses aux conditions de vie difficiles depuis des 200 jeunes isolés qui vivent là-bas depuis plusieurs mois pour certaines. De ce que je vois dans les petites fiches, du coup, le rendez-vous est donné à partir de 13h. Il y aura des concerts et vous pourrez grignoter des petites choses. Qu'est-ce qui se passe sinon le dimanche, si vous êtes plutôt dans le 7e arrondissement et pas dans le 4e ? Eh bien, vous pouvez aller à la projection débat autour du film « Quand le poisson sort de l'eau ». C'est un film qui a été mené de manière participative avec des Guinéens et des Guinéennes qui fréquentent la place Mazagran dans le 7e arrondissement. La projection aura lieu dimanche à 18h à l'Amicale du Futur. Et alors, de quoi parle ce film exactement ? C'est un périple cinématographique collectif d'un an et demi qui part d'une rencontre sur une place lyonnaise, une centralité immigrée en cours de gentrification, comme c'est le cas dans beaucoup de quartiers au monde. Ici se croisent des passants et des passantes, des habitants et des habitantes, à la journée et à la nuit, âge, couleur et classe confondues. Racontant cette place publique, les mobilités et difficultés pour y arriver, des hommes en situation de migration, présents ou passés, prennent la parole. Entre désillusion, espoir et sentiment de révolte, ils témoignent des raisons de leur départ de Guinée-Conakry, de leur traversée, de leur vie en France. Donc pour rencontrer les personnes qui ont fait ce film et pour voir ce film, le rendez-vous est donné à l'Amicale, c'est 31 rue Sébastien Griff, dimanche à 18h. Sinon, qu'est-ce qui se passe le lundi, toujours sur la thématique des migrations ? Et bien du coup, il y a la manifestation en soutien à l'Amphizette, qui est un no-squat de personnes migrantes, pour leur droit à rester, et du coup pour demander à ce qu'ils ne soient pas expulsés. Normalement, le rendu du procès devait avoir lieu le 4 février, il a été repoussé à lundi prochain, et donc on vous donne rendez-vous à partir de 9h au tribunal d'instance de Villeurbanne pour aller soutenir l'Amphizette. Le soir, il y a toujours la permanence juridique de soutien aux personnes sans papier que vous pouvez retrouver à la Lutine, rue Montesquieu, dans le 7e. Et sinon, du coup, le mercredi, vous pourrez aller rencontrer l'auteur d'un livre très intéressant qui s'appelle « Qui sème le vent récolte la tapette » et qui parle du coup des groupes de libération homosexuelle dans les années 70. Ça se passe au centre LGBTI rue des Capucins dans le premier. Et donc, c'est des groupes de libération qui se sont montés dans les années 70, juste après le phare, pour découvrir du coup l'histoire de ces luttes homosexuelles. Vous rendez-vous mercredi 20 février à partir de 20h au centre LGBTI rue des Capucins.
Cagno Info du vendredi. Je m'appelle Margot, j'ai 3 ans et je voudrais savoir qu'est-ce que ça veut dire ACAB.
Radio Canu, la radio la plus brillante.
Et alors, ce soir, ACAB, ça veut dire, attention, c'est poétique, une fois n'est pas coutume, la semaine prochaine, promis, on rigolera, ça veut dire, l'ampleur de nos colères atteindra vos bastions.
Waouh!